en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président du Conseil économique, et social et environnemental, messieurs les députés, monsieur l'ambassadeur, monsieur le chancelier de l'Institut de France, monsieur le chancelier honoraire, monsieur le président, monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, mesdames et messieurs, il y a 3 ans, jour pour jour, Michel Albert nous quittait à l'âge de 85 ans. C'est avec beaucoup d'émotion que je prononce son éloge, car j'éprouvais pour lui une profonde amitié. Nous aurions tous préféré qu'il soit là parmi nous, à discuter et à débattre comme il adorait le faire, à disserter avec passion sur toutes les dimensions de la vie économique, sociale et politique de notre pays. Nous aurions reconnu immédiatement son timbre de voix si particulier, son verbe si dense et si précis. Nous aurions croisé son regard plein d'intelligence et nous aurions vu son sourire illuminer ses propos. Il nous aurait finalement convaincus de ses thèses, car le bougre ne lâchait pas facilement le morceau. Il argumentait sans cesse, avançait faits et chiffres, multipliait les références. Il avait cette disposition trop rare de l'autorité. Sa voix résonne encore dans les salles de l'Académie des sciences morales et politiques, et je crois que cette coupole gardera toujours sa voix en sa mémoire. Mes chers confrères, vous avez sans doute en mémoire les éloges de haute facture prononcés par Jean Cluzel, par Jean Foyer et Michel Cantu lors de la remise de son épée à Michel Albert en 1995. Et vous vous souvenez sans doute des adieux émouvants prononcé par Xavier Darcos et Michel Cantu en la cathédrale Saint-Louis des Invalides le jeudi 26 mars 2015. Avec Michel Albert, nos chemins se sont croisés et entrecroisés de nombreuses fois, au commissariat général du Plan, aux AGF, à l'Association de Genève, à la Fédération française des sociétés d'assurance, plus tard au sein d'un conseil d'administration. C'est à l'occasion de l'émission « Vive la crise » en février 1984, que nous nouons ensemble une relation très étroite. Il partage la vedette avec Yves Montand. Michel Albert explique avec son grand talent pédagogique les tenants et les aboutissants de la crise qui secoue le monde, souvenez-vous, 1984, qui secoue le monde en général et la France en particulier. Avec son optimisme indécrottable, il voit dans la crise une opportunité. Elle peut constituer un levier très puissant pour nous forcer, nous Français, nolens volens, à enfin nous adapter, à nous transformer. Vive la crise ! Cette émission a un retentissement considérable, plus de 30% d'audience, et elle coïncide très précisément avec le virage historique qui nous fera choisir l'Europe et le monde plutôt que le repli national sans issue dans lequel on s'engage en 1981. Pour cette émission, j'écris et présente le scénario d'une crise mexicaine qui dégénère et finit par mettre le système financier international en danger systémique. Ce scénario se déroulera beaucoup plus tard, en 2008, cette fois-ci en grandeur réelle, mais l'épicentre de la crise financière se situera alors aux États-Unis et non au Mexique. Michel Albert naît à Fontenay-le-Comte en 1930, au cœur de la Vendée. Sa famille est enracinée dans cette terre au destin si particulier dans notre histoire nationale. Recevant son épée, il témoigne « Si loin que l'on remonte, tous mes ancêtres furent des paysans du bocage vendéen. » Attaché à sa terre natale, il a d'ailleurs fait figurer sur son épée le clocher de la collégiale Notre-Dame ainsi que la tour des sergents de La Rochelle, ville où ses parents se sont installés. D'ascendance modeste, Michel Albert subit dès son enfance les conséquences terribles de la crise des années 30. Il écrit dans le Paris français « Je suis né en 1930, l'année de la grande crise en Europe. 4 ans plus tard, mon père, qui était domestique agricole en Vendée, a dû émigrer avec sa famille. Il n'y avait plus de quoi le faire vivre avec sa femme et ses enfants sur la ferme où mes grands-parents étaient métayers. Toute mon enfance, ajoute-t-il, a été hantée par cette image de la crise, du chômage, par cette cassure terrible de l'entre-deux-guerres qui a précipité le monde à la catastrophe. C'est en fait toute la vie de Michel Berre qui a été hantée par ce traumatisme majeur et cruel. Il reste seul à Fontenay-le-Comte pendant que sa famille va à La Rochelle, puis à Châtelaillon. Repéré par ses professeurs, Michel Albert fait un brillant parcours scolaire chez les pères à l'Institut Saint-Joseph. C'est là où se joue et se noue le fil blanc de sa foi. Il part ensuite poursuivre ses études à Paris. Il est boursier puis surveillant au collège Saint-Louis de Gonzague chez les Jésuites. Il poursuit ses études à Sciences Po comme boursier de service public. C'est alors qu'est instaurée la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la fameuse CECA. Michel Albert, qui a 20 ans seulement à l'époque, considérera toujours cette date comme le véritable acte fondateur de l'Europe. Je le cite, « La naissance de l'Union européenne est le fruit d'une véritable vie nouvelle dans les relations entre la France et l'Allemagne. Cette naissance est datée du 9 mai 1950 et l'acte qui en fait foi s'appelle la déclaration Schuman. Si bref soit-il, ce texte n'en constitue pas moins l'un des événements les plus étonnants, voire les plus beaux de toute l'histoire, affirme Michel Albert. Où donc, en effet, avait-on vu, au terme de trois guerres implacables, deux nations se convertir subitement au dessein d'un monde nouveau, où le vainqueur renonce à humilier le vaincu pour lui proposer sans arrière-pensée le pardon, la réhabilitation et la coopération institutionnalisée dans la communauté européenne. Dans cette simple phrase, tout est dit. Michel Berre voue également une admiration sans borne à l'autre initiateur et promoteur de la CECA, Jean Monnet, premier commissaire général au PAN, nommé en 1946. Un autre fil de son destin apparaît. Michel Albert sera l'un des successeurs de Jean Monnet en rejoignant le plan 26 ans plus tard. Après Sciences Po, Michel Albert fait un doctorat de droit à l'université de Poitiers, qu'il achève en 1953. Et c'est là où il s'initie au mécanisme de marché. Sa thèse s'intitule « La sidérurgie britannique entre le secteur public et le secteur privé ». Nationalisation et dénationalisation. Déjà, on perçoit dans cet intitulé sa recherche permanente de l'équilibre assez subtil et assez fragile entre le rôle de l'État et celui du marché, équilibre qui va guider ses réflexions et son action tout au long de sa vie. Il épouse Claude Albert en 1953, qui nous fait la grande joie d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis très heureux de votre présence, madame, et vous me permettrez d'être peu disert sur votre vie familiale. Michel Albert était lui-même très pudique et il est de notoriété publique que vous formiez un couple fusionnel. Vous eûtes 4 enfants dont l'un malheureusement nous a quittés. C'est votre ami Michel Cantsu qui a su trouver les mots justes lorsqu'il a remis son épée à votre époux pour décrire votre vie familiale. Je le cite, il s'adresse à Michel, « C'est de Claude que vient ta force et l'allégresse dans ta vie, la capacité aussi à vivre l'insupportable » et le courage des recommencements. Il ajoutait, sans Claude Albert, pas de Michel, et évidemment, pas d'épée. Mes chers confrères, je suis heureux de voir que ces 3 enfants et ces 7 petits-enfants sont parmi nous aujourd'hui. Vous avez eu un père et un grand-père exceptionnels. Michel Albert entre à l'ENA en 1954, l'année de l'échec de la Communauté européenne de défense, la fameuse CED. Bien que mendésiste, il ne comprend pas la position de Pierre Mendès-France qui y est opposée. L'échec de la CED conforte Michel Albert dans sa conviction que l'avenir de la France sera européen ou ne sera pas. Le fil bleu de l'Europe s'entrecroise à l'écheveau de sa vie. La France, pays bureaucratique s'il en est, garde trace de tout et j'ai pu me procurer ses copies à l'ENA. Vous ne croirez jamais qu'une de ces copies porte déjà sur la planification et ses mérites. Il a une note de 11 sur 20. Mais il cartonne surtout avec une note de 14 sur 20 sur le sujet de la libre entreprise aux États-Unis, dont il fait l'apologie. Qui l'eût cru en lisant « Capitalisme contre capitalisme » paru en 1991 ? Michel Albert sort 3e de l'ENA et choisit l'inspection des finances en 1950. Michel Albert a alors deux idées claires en tête. Il les rappelle dans une interview en 2003. La première idée, c'est que je souhaitais travailler sur les problèmes de sous-développement. Et la deuxième idée, c'est que j'étais un militant européen et que j'étais intéressé de travailler en Europe, de travailler pour l'Europe. Une occasion unique se présente à lui en 1959, où il devient secrétaire général du comité Rueff-Armand, mis en place par le général de Gaulle. À ce poste, il est aux premières loges pour analyser les blocages hérités notamment de la IVe République, qui empêchent notre pays de retrouver une ère de progrès économique et social. La mission confiée à Jacques Rueff et Louis Armand est de rendre des avis et des propositions portant sur la suppression des obstacles à l'expansion économique. Ce rapport novateur d'inspiration libérale ne sera, comme vous le savez, que très partiellement mis en œuvre. On retrouve d'ailleurs dans le rapport Attali publié en 2008, dont l'objet est lui aussi de libérer la croissance, des recommandations sur l'ouverture à la concurrence de certaines professions déjà émises, étrange coïncidence, 48 ans plus tôt. Cette première mission capitale va ranger définitivement Michel Albert dans le camp des réformateurs, de ceux qui souhaitent que le pays se transforme et s'adapte, se modernise, s'ouvre, avance, accepte la compétition internationale, fasse confiance aux mécanismes de marché, n'ait pas peur de l'avenir. Michel Albert croit dans l'action résolue pour dépasser les clivages issus du passé, surmonter tous les obstacles et vaincre les nombreuses forces de résistance. Depuis cette date, le fil rouge de la réforme vient se mêler dans la trame de sa vie et se conjuguer avec le fil bleu de l'Europe. Nous sommes alors en pleine reconstruction, au cœur des Trente Glorieuses, selon l'expression de son ami Jean Fourastier. L'inspection des finances l'envoie au Maroc en 1960. Il ne restera pas longtemps car il rejoint la Banque européenne d'investissement à Bruxelles en tant que directeur adjoint de 1963 à 1966. Michel Albert est en effet recruté par Yves Leportz pour s'occuper des prêts aux pays membres de la BEI. L'action de Michel Albert porte principalement sur le développement de l'Italie du Sud et de la région de Bari qui est très en retard. Quand on lui demande plus tard pourquoi il a fait ce choix de la BEI et plus tard de la Commission européenne, il répond « C'est très simple, je faisais partie du club Jean Moulin, du club Citoyen 60 et du mouvement européen. J'étais un militant européen. » En 1966, Michel Albert rejoint la Commission européenne et prend la tête de la direction Structure et Développement économique. Il s'agit de définir la politique économique à moyen terme de l'Europe, enjeu hautement politique, consistant à coordonner chaque initiative étatique au regard de l'ambition européenne commune. Michel Albert, sous l'inspiration de Robert Marjolin, qui rejoignit notre Académie en 1984, crée un cadre d'action ambitieux autour des politiques de concurrence et d'action sociale. Le premier programme de politique économique à moyen terme de la Commission porte sur la période 1965-1970. Michel Albert en est son chef d'orchestre. Il torsade son fil rouge de planificateur avec son fil bleu européen. Il travaille ensuite à Bruxelles avec Raymond Barre, nommé commissaire européen par le général de Gaulle en 1967, après la fin de la politique de la chaise vide. Pour Michel Albert, Bruxelles est plus qu'une institution où il confesse passer ses dimanches à travailler d'arrache-pied. Bruxelles, c'est ce creuset où il découvre des cousins européens dont il n'avait auparavant qu'une connaissance livresque. Lui, ce fils de la terre vendéenne, qui reconnaît tout ignoré de la culture d'outre-Rhin, occupe avec ardeur et joie son poste à commission. C'est sans aucun doute à cette occasion que s'est forgée sa culture rhénane, qu'il exposera et défendra plus tard dans son livre « Capitalisme contre capitalisme ». Le modèle rhénan, qui l'inspirera tout au long de sa vie, peut être qualifié de son fil vert. Immobilisé après un accident de ski, il écrit alors un petit ouvrage sous un faux nom, Claude Bruclin, Madame, je crois comprendre le choix du prénom, intitulé « Le socialisme et l'Europe ». Pour le club Jean Moulin, son œuvre inspire fortement Jean-Jacques Servan-Schreiber. Leurs échanges très nourris et les nombreuses notes préparées par Michel Albert pour Jean-Jacques Servan-Schreiber inspirent à leur tour le défi américain, ouvrage à très grand succès, 1 million d'exemplaires, que seul Jean-Jacques Servan-Schreiber signe. À la lecture de ce livre, on se dit que son titre aurait dû être « Le défi européen », car il porte en réalité sur les challenges que la croissance américaine et ses progrès technologiques fulgurants vont poser au vieux continent. Sa collaboration étroite avec Jean-Jacques Sevan-Schreiber se poursuit et se traduit par un ouvrage, cette fois-ci co-signé, « Ciel et terre, manifeste radical », publié en 1970. Dans ce manifeste, les deux auteurs affirment « La seule manière aujourd'hui de refaire la révolution, SIC, consiste à mettre en œuvre un nouvel ensemble cohérent de réformes progressistes. Pour cela, la société doit abolir les carences et les injustices au moyen de la liberté d'initiative dans tous les domaines, doit œuvrer à la diffusion des responsabilités et de l'égalité, et doit promouvoir la confiance. Je cite, en un mot, le progrès technique et économique ne se conçoit plus sans un progrès de la morale entre les hommes. La mise en œuvre de ce progrès radical repose sur quatre piliers. La séparation du pouvoir politique et du pouvoir économique, l'accès à l'égalité sociale avec l'éducation comme pierre angulaire d'une nouvelle structure sociale plus égalitaire, une réforme de la formation continue, des grandes écoles et la transformation du service militaire en service civil. 3. La fin du pouvoir privé héréditaire avec une réforme complète des droits de succession. Et enfin, la redistribution du pouvoir public par des dévolutions aux pouvoirs régionaux disposant d'une autonomie financière. Et les auteurs évoquent pour la première fois la création d'États-Unis d'Europe. Michel Albert affirme ainsi dès 1970 ses convictions en faveur d'une Europe fédérale. Mes chers confrères, mesdames et messieurs, vous reconnaîtrez sans doute certains des thèmes qui inspirent le gouvernement actuel, 58 ans après la publication de « Ciel et terre ». Qu'il me soit permis de marquer mon étonnement au recours du mot « radical ». L'Académie française vient donner récemment une définition, car elle procède à l'examen de tous les mots commençant par « R », donc « radical » a été vu, poussé jusqu'à l'extrême, éloigné de la juste mesure. Vous conviendrez avec moi que ce terme ne correspond en rien aux recommandations de Michel Albert et de Jean-Jacques Schreiber et semble même aux antipodes de la vision du monde de Michel Albert. Loin des extrêmes, il cherchait au contraire le consensus, la concertation, le centre, je dirais même le barycentre. 2 ans après la publication de Ciel et Terre, PS, PC et PRG signent un programme commun radical, cette fois-ci, qui va exactement dans le sens opposé à celui prôné par Michel Albert. En dépit de l'intérêt que suscite ce manifeste, Michel Albert décide de ne pas céder aux sirènes de la politique comme tant d'autres hauts fonctionnaires à l'époque et rejoint le groupe express de son ami Jean-Jacques Sevan-Schreiber. Cela lui permet de continuer à participer activement au débat public. Michel Albert aurait pu être professeur, il en avait toutes les qualités, mais il sait que même le plus grand des amphithéâtres n'aura jamais la résonance d'un journal ou d'un livre. Il aime la presse. Il aime les journalistes. Il co-signera ses œuvres avec, outre Jean-Jacques Sevan-Schreiber, Roger Prioret, Jean Ferniaud, Jean Boissonnat, Jean-Claude Guibaud. En 1975, Michel Albert sort un livre avec Jean Ferniaud au titre biblique, « Les vaches maigres », l'alternance de 7 ans décrite dans la Bible, correspondant au cycle du Nil. Michel Albert a une qualité, il perçoit immédiatement les points d'inflexion de l'histoire, que ses contemporains mettent généralement du temps à voir. Il en analyse sans délai les conséquences et il indique des voies à suivre pour y réagir. 1975, c'est la fin des Trente Glorieuses et le début des Trente Piteuses, pour reprendre l'expression de Nicolas Bavrez. C'est le début de la montée du chômage, du ralentissement de la croissance, de la montée des déficits. Il faut saluer la perspicacité de Michel Albert, même si, rétrospectivement, il était optimiste d'envisager que la durée de la période des vaches maigres serait seulement de 7 ans. Nous n'en sommes d'ailleurs pas complètement sortis, même si le spectre de la stagnation centenaire semble aujourd'hui, fort heureusement, s'éloigner. Michel Albert rejoint le plan en 1976. En fait, dès que Raymond Barre devient Premier ministre, en tant que commissaire adjoint, puis après le succès des législatives en 1978, en tant que commissaire du plan. Il faut voir dans cette prise de fonction une véritable prédestination. Le fil rouge de ses convictions en faveur d'une économie organisée, j'allais dire planifiée, et pas un fil, c'est en réalité une corde. Le plan, voilà encore un lieu où l'on conjugue prévision et proposition, discussion et préconisation, en vue de dégager un consensus entre toutes les parties prenantes. La société civile est bien associée à tous les représentants de l'État. En 1976, on lance le 7e plan qui s'achève en 1981. Le 8e plan commencera en 1981. La tâche de commissaire n'est pas facile. Comment retrouver les voies les plus propices au retour au plein emploi et à la croissance alors que la France vient de subir coup sur coup deux chocs pétroliers, totalement déstabilisateurs? Le plan veut être un réducteur d'incertitudes dans un monde en pleine mutation. Jacques Le Sourne, dans un livre paru en 1981, avance qu'il y a 1000 sentiers de l'avenir, lesquels explorer, lesquels recommander, telle est la question. L'époque... Veuillez m'excuser. Il me manque une page. Je suis absolument confus. L'époque est compliquée. Ben, mon discours aussi, puisqu'il me manque une page. C'est encore plus compliqué, d'ailleurs. Nous en étions donc au mille sentiers de l'avenir. La période à l'époque est délicate à gérer. Si on se souvient bien, jusqu'en, mettons, 1990, la pensée idéologique majoritaire est très antilibérale, très antimonétariste, très antinéoclassique. Elle est keynésienne, elle est néo-keynésienne, elle est post-keynésienne, elle est en partie marxiste. Elle voit dans le déficit un soutien à la croissance, un soutien à l'activité, une lutte contre le chômage. Le déficit n'est pas repoussé, il n'est pas condamné, au contraire, il est souvent suscité et souvent on demande qu'il soit augmenté. À cette époque-là, Michel Albert, comme Raymond Barre et Jean-Claude Casanova, qui est à l'époque à Matignon, passe son temps à expliquer qu'il existe quelque chose qui s'appelle la contrainte extérieure, qu'il faut faire attention en relançant la croissance dans un pays donné qui est ouvert au monde, de voir la balance des paiements, la balance extérieure, de voir tous les équilibres se dégrader, et particulièrement la compétitivité. Déjà à l'époque, le débat entre l'offre d'un côté et de l'autre côté les facteurs de demande fait rage. Et on voit bien les deux camps. Michel Albert est bien entendu du côté de Raymond Barre, en souhaitant que ce soit les facteurs de l'offre qui dominent, à une époque où malheureusement ce sont les partisans des facteurs de la demande qui l'emportent. L'idéologie à l'époque voit dans le secteur public et les grandes entreprises nationales un atout majeur. Et vraiment, le déficit public en un lieu mineur, quand il n'est pas simplement désiré, au nom de la salutaire relance par la consommation. Michel Albert a eu raison d'insister sur la nécessité de disposer d'une offre productive et compétitive, mais il était aussi en faveur de la stabilité monétaire et aussi de la stabilité d'échange bénéfique pour le secteur productif. Et à l'époque, met en garde contre le désastre qu'aurait une relance dans une économie ouverte. C'est notamment, et je le rappelle, Michel Albert qui formalise le concept de contrainte extérieure. Les politiques sont vouées à l'échec si elles ignorent les équilibres extérieurs. Clamence in deserto. Pour Michel Albert, l'alternance de 1981, qui met en œuvre cette politique de relance de la consommation, est catastrophique d'un point de vue économique. Hyperinflation, déficit public et sociaux records, déficit de la balance commerciale et de la balance des paiements exponentielle, forte augmentation du chômage, taux d'intérêt à deux chiffres, rétablissement du contrôle d'échange, tout ceci va exactement dans le sens contraire, mais c'est ce qu'il avait prédit au cas où on procéderait à cette politique massive de relance de la consommation. Seule satisfaction pour Michel Albert, on dédouane les magnétoscopes japonais à Poitiers, ville où Michel Albert avait fait sa thèse, pour ralentir leurs importations. Désastre économique prévisible qui donne raison pleinement à Michel Albert et à tous ceux qui prônent l'adaptation et la réforme, l'intégration dans l'Europe et dans le monde. Au même moment, on s'engage dans la révolution reaganienne et dans la révolution thatchérienne. La France diverge et la construction européenne commence à dangereusement chanceler. Il faut 2 ans pour que la France donne le coup de rein, qui la remette dans le sens de l'histoire. Pour l'anecdote, j'écris une note qui est transmise au Premier ministre de l'époque, intitulée « Les coûts de l'inflation »,
qui prône le blocage des prix et des salaires pour casser la spirale infernale de la hausse des prix. Quelques semaines plus tard, le gouvernement prend une telle mesure, le virage économique est pris, le projet européen est remis sur les rails, l'acte unique est signé 3 ans plus tard, en février 1986. Ouf, la France l'a échappé belle. La nouvelle majorité sortie des urnes en 1980 ne souhaite pas maintenir Michel Albert à son poste. Et lui ne souhaite pas y rester, même s'il entretient des relations très amicales avec Jacques Delors et Michel Rocard. Il ne partage pas les orientations du gouvernement de l'époque, dont il pense à raison qu'elles vont contre ses propres convictions et mettent en danger la construction européenne, son fil bleu auquel il tient tant. Il rejoint les Assurances Générales de France en 1982. Je conçois, mesdames et messieurs, chers confrères, que ce choix inspire pour nombre d'entre vous quelques interrogations. Que va donc faire Michel Albert, esprit brillant, à spectre large, dans le monde du dégât des eaux et des ailes froissées ? On a tous en tête la tirade du capitaine Haddock à Séraphin Lampion des assurances Mondas, qui essaie de lui vendre une police. « Je suis assuré sur la vie, contre les accidents, contre la grêle, la pluie, les inondations, les raz-de-marée, les tornades, contre le choléra, la grippe et le coryza, contre les mites, les termites et les sauterelles, toutes, je vous dis, la seule assurance qui me manque, c'est une assurance contre les casse-pieds. » Michel Albert va aimer ce métier d'assureur, aimer les AGF, la première entreprise dont il assure la responsabilité au plus haut niveau. Loin de l'univers courtelinesque tant décrié, à tort des lustrines et des polices à petit caractère, Michel Albert comprend que l'assurance est au cœur d'un tissu social, d'un lien social, qui en mutualisant les risques permet de réduire leurs conséquences humaines, économiques, financières et sociales. Comme le plan, mais au travers d'autres voies et par d'autres moyens, l'assurance est également un formidable réducteur d'incertitude. Je me souviens d'avoir échangé à l'époque avec Michel Albert sur la devise des Lloyds, la contribution de tous au malheur de quelques-uns. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le progrès de la société résulte de la mise en place des assurances sociales. C'est le socle des social-démocraties modernes. Et l'essor des marchés d'assurance permet l'exercice des responsabilités et la protection des biens productifs, tout en générant des capitaux longs propices au financement de l'économie. Michel Albert fait l'analyse que la politique de désinflation compétitive, enfin mise en œuvre au milieu des années 80, et la stabilité de la monnaie vont fortement développer l'assurance vie, qu'il définit comme un transport de fonds dans le temps. Pourquoi utiliser ce support pour épargner si l'inflation rogne année après année vos économies ? Michel Albert voit juste. L'assurance vie devient le placement préféré des Français et les AGF connaissent un fort développement. Vous vous souvenez sans doute de cette belle publicité où des patineurs dessinaient le logo des AGF sur un lac gelé au son du boléro de Ravel, le même musicien que j'ai choisi ce soir, à l'occasion des JO d'hiver de 1992. JO qui se tenait bien entendu à Albertville. Michel Albert constitue une équipe de choc pour le seconder aux AGF. Qu'il me soit permis de citer notamment Roger Papaz, disparu aujourd'hui, Jean-Daniel Lefranc, Yves Mention, Gérard Fauvadel, Jean-Claude Cholet, Jean-François Debois et bien d'autres. Toutes les propositions de réforme des assurances sociales, retraite, maladie, accidents du travail, dont la situation ne faisait que de se dégrader, avancées par les assureurs, Claude Bébéard, Jean Perlevade, Michel Albert, Jean-Philippe Thierry, Jean Harvis et d'autres, sont restées lettres mortes. On s'est borné à laisser filer les déficits publics et sociaux tout en augmentant fortement les prélèvements obligatoires, dégradant la compétitivité de notre pays. En France, la procrastination est définitivement la chose la mieux partagée. Tout commence par une chanson et tout termine par une cotisation. Pendant la présidence de Michel Albert, les AGF se développent en Belgique, en Italie, en Espagne et surtout en Allemagne en prenant le contrôle de fait après une très rude bataille de la société d'assurance AMB à Aachener und Münchener Beteiligungs. Ce tropisme allemand suit le fil vert de Michel Albert. Le seul regret de Michel Albert, c'est de n'avoir pas pu réaliser la privatisation des AGF qu'il quitte en 1984. C'est Antoine Jean-Courgani qui réussira brillamment cette privatisation en 1996. Michel Albert est bien entendu en faveur du traité de Maastricht. Partisan de la monnaie unique et de l'indépendance de la Banque de France, il y voit une étape absolument essentielle pour l'unité européenne. Michel Albert considère à juste titre que Helmut Kohl a joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'Europe. Dans un très beau texte présenté à l'Académie en 2003, il lui rend hommage en le qualifiant de « père de l'euro ». Helmut Kohl, père de l'euro. Aussi n'est-ce pas un hasard si Michel Albert retrouve son fil bleu, celui de l'Europe, en rejoignant le Conseil de la politique monétaire créé par la loi du 4 août 1993. Le nouveau gouverneur de la Banque de France, notre confrère et ami Jean-Claude Trichet, en prend les rênes le 1er septembre 1993. Michel Albert y rejoint son ami Jean Boissonnat. Le mandat de Michel Albert est de 9 ans. Ainsi, Michel Albert peut participer au passage à la monnaie unique. En novembre 1998, à moins de 2 mois de l'introduction de la monnaie unique, Michel Albert s'exclame « Je suis fier de ce que nous venons de faire. L'euro est un exemple pour le monde de ce que 11 pays peuvent faire comme sacrifice. » Déjà à l'époque, il met en garde contre les divergences budgétaires et fiscales au sein des pays de la zone euro qui risqueraient de nuire à la stabilité et donc à la crédibilité de la monnaie unique. Dans ce domaine également, la crise européenne du début des années 2010 lui a malheureusement donné raison. Succès économique, succès monétaire, succès financier, malheureusement l'Europe n'a pas eu le succès politique escompté. Dès le début des années 2000, elle devient le bouc émissaire dans notre pays des difficultés montantes, un objet politique alimentant polémiques permanentes. Le fil bleu, si résistant jusqu'à présent, commence à s'effilocher. Et Michel Albert voit l'Allemagne entreprendre, lors du second mandat de Gerhard Schröder, puis avec Angela Merkel, des réformes que notre pays n'entreprend pas. L'écart se creuse entre les deux pays, le fil vert se distend. Michel Albert a joué un rôle important dans notre Académie. Il y est élu le 28 mars 1994 dans la section économie, politique, statistique et finances au fauteuil d'Henri Guiton. Il en est particulièrement heureux compte tenu de leurs convictions chrétiennes partagées. Michel Albert devient président de l'Académie en 2004 et choisit, comme par hasard, comme thème « Regard croisé sur l'Europe ». L'année 2004 est notamment marquée par un élargissement rapide de l'Europe qui est rejoint d'un seul coup par 10 pays, après être seulement passé de 6 pays à 15 entre 1957 et 2004. Ainsi se réalise ce que Robert Schuman appelait de ses voeux 40 ans auparavant, je le cite, « Nous allons faire l'Europe, non seulement dans l'intérêt des peuples libres, mais aussi pour pouvoir y accueillir les peuples de l'Est qui, délivrés des suggestions qu'ils ont connues jusqu'à présent, nous demanderaient leur adhésion. » Je trouve cette phrase absolument remarquable de la part de Robert Schuman. C'est aussi en 2004 que le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement adopte le projet de traité constitutionnel. Michel Albert est consterné par l'échec du référendum de 2005, lui qui rêvait que la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe constitue un socle définitif à l'approfondissement de la construction européenne. Il devient secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques de 2005 à 2010. Il aime, mesdames et messieurs, profondément l'Académie. Il y consacre du temps, de l'intelligence et de l'énergie. Il y présente des contributions très remarquées, participe activement au débat. Il y retrouve une large partie de ce qu'il aimait faire au plan et dans sa vie antérieure et continue ainsi à filer son fil rouge. Toujours débattre du fond, accepter de confronter ses idées, chercher à comprendre le monde, dégager des voies d'action. Il en profite notamment pour rappeler un sursaut du système éducatif français. En 2007, aux côtés de Raymond Barre et de Pierre Messmer et d'autres académiciens, il publie un essai au titre sans appel « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse ». Je les cite « L'école et l'université se sont ouvertes massivement, mais cette ouverture a engendré autant de désillusions qu'elle avait suscité d'espoir. Les tabous de la gratuité, du refus de la sélection et le manque d'autonomie des universités rendent l'enseignement supérieur difficilement réformable, sauf par contournement ou à la marge grâce à la création de filières spécialisées dues aux initiatives heureuses de certaines équipes pédagogiques. Souhaitons, chers confrères, mesdames et messieurs, que la réforme actuelle, trop tardive, aille à son terme. Il en va de l'avenir de notre pays. » Michel Albert est un penseur de la réforme, de la transformation, de la modernisation, de l'adaptation, bref, de l'évolution économique, sociale et politique. Il est à la fois un observateur, bien entendu, attentif de ces changements profonds, mais il est aussi un acteur engagé dans les diverses missions qu'il mène à bien. Un de nos amis communs, Jean Flory, qui est parmi nous, nous disait que le monde se partage en 2 catégories. ceux qui poussent à la roue de l'histoire et ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues. Il ajoutait qu'en France, on s'est trompé dans les proportions entre les deux catégories. Michel Albert a poussé inlassablement la roue de l'histoire, notamment de l'histoire européenne, et son appui fut précieux pour la sortir des ornières dans lesquelles elle est très souvent tombée. Michel Albert sait aussi que l'histoire n'est pas linéaire, elle n'est pas simple, elle n'est pas tracée. Elle avance par crise, elle est une course d'obstacles, certains prévisibles, d'autres non. En 1975, après les vaches maigres, reviendront peut-être les vaches grasses. En 1988, il publie « Crise, crack, boum ». Un mot français, un mot allemand, un mot anglais. Oui, la crise est là, certes les difficultés s'aiguisent, mais elles seront surmontées. En 2004, c'est « Vive la crise », avec le même message illustré cette fois-ci à destination du grand public. En ce sens, Michel Albert est en quelque sorte schumpeterien. Et sa propre histoire l'a marqué à jamais. C'est grâce à l'Europe qu'on a pu surmonter la débâcle des années 30 et la débâcle et le désastre de la Seconde Guerre mondiale. Selon Michel Albert, seule la volonté résolue permet d'avancer, contre vents et marées, par mer calme comme par tempête. Et il faut s'employer à rassembler le plus grand nombre de nos concitoyens autour d'un destin commun, ce qui est toujours une gageure. Toute l'œuvre de Michel Albert est sous-tendue par cette conviction profonde. Michel Albert adopte toujours une focale large. Il voit d'emblée au-delà de nos frontières, étudie les autres organisations économiques et sociales que les nôtres, voit toujours au-delà de notre horizon. Cette disposition d'esprit est fondamentale. Il n'aura de cesse de plaider pour que la France soit au diapason du monde, ne reste pas à la traîne, s'oblige au dépassement d'elle-même, recherche l'excellence, montre l'exemple. Quand il parle de défis, c'est toujours pour les relever. La France ne doit pas se réfugier dans l'exception, mais au contraire continuer d'être exemplaire, d'être universel, d'être copié, d'être envié, d'être imité, d'être admiré. Les frontières doivent être à la fois dépassées et déplacées. Cette mise en concurrence émulatrice pousse à la transformation permanente de notre pays. Il faut redoubler d'efforts pour s'adapter et être au meilleur niveau. Plutôt que la recherche de protection, aussi illusoire que transitoire, pour abriter notre pays du mouvement du monde, il faut tout mettre en œuvre pour en tirer parti. Et pour en tirer parti, il faut avoir le courage de relever des paris. Il aimait le mot « pari ». Un bon Anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, affirme Jules Verne dans son Tour du monde. Mais le sens de « pari » pour Michel Albert est différent. C'est l'engagement à faire triompher une idée, une conception issue d'un choix dont on mesure les risques et les limites. Michel Albert utilise le mot « pari » au sens de François Pérou, dont Raymond Barre fut l'élève, car je cite François Pérou, « C'est par les choix des points majeurs de la croissance et par le pari qui en résulte, en faveur de la structure de l'économie nationale, que les nations modernes ont les meilleures chances de maximiser au cours d'une période déterminée la croissance de leurs produits. » Le pari radical, le pari français, le pari rhénan, le pari du plan, le pari européen, le pari de l'euro. Michel Albert a la conviction qu'il faut convaincre ses contemporains du bien fondé d'entreprendre les adaptations et réformes nécessaires. Pour ça, il faut d'abord une vision claire des tâches à accomplir. Il forge cette vision dès le début de sa vie publique et passe son existence à la ciseler, à la préciser, à la développer. Et il sait avant tout être pédagogue, exprimer simplement ses idées, les illustrer et surtout les répéter inlassablement, comme un professeur. Michel Albert n'aime pas le conflit. Son choix du mendicisme, puis du radicalisme, puis du centrisme est là pour illustrer mon propos. Il est à la recherche d'une troisième voie, loin des oppositions stériles, des incompatibilités définitives, des affrontements brutaux. C'est une tâche difficile dans cette période d'après-guerre où les tensions idéologiques restent très 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 vives. Il participe au débat, mais il ne s'engage pas en politique active. Il ne se présente à aucun suffrage. Spectateur engagé, mais pas acteur encarté. Le pari oui, le parti non. Cela explique sa fascination pour le modèle rhénan. Dans Capitalisme contre capitalisme, Michel Albert identifie 9 enjeux que les pays capitalistes développés doivent gérer. Immigration, on ne s'est pas trompé, 1991. Pauvreté, sécurité sociale, hiérarchie des salaires, rôle de la fiscalité par rapport à l'épargne et à l'endettement, degré de réglementation, mode de financement bancaire ou boursier de l'économie, mode de gouvernement d'entreprise et finalement politique vis-à-vis de la formation. 27 années plus tard, cette liste reste d'une grande actualité, aucune de ces grandes questions n'ayant été véritablement résolue. Que de chantiers restent encore ouverts alors que l'on avance dans ce 21e siècle? Quel type de capitalisme est susceptible de mieux gérer tous ces problèmes? L'anglo-saxon ou le rhénan? Le modèle actionnarial ou le modèle partenarial? C'est clair, Michel Albert privilégie, c'est son fil vert, l'économie sociale de marché, inspirée par l'école de Fribourg, berceau de l'ordolibéralisme. Ce dernier constitue le soubassement idéologique des politiques économiques et sociales menées après-guerre, non seulement en République fédérale d'Allemagne, mais ainsi que dans tous les pays du nord de l'Europe. Dans une séance de l'Académie, le 16 décembre 2002, Michel Albert résume sa thèse sur les deux capitalismes. Depuis les années 80, deux modèles de capitalisme tendent à s'opposer. Le premier est de plus en plus centré sur l'Europe continentale et particulièrement sur la zone rhénane. Il considère l'entreprise comme une institution investie de responsabilité sociale et donc poursuivant des finalités multiples. L'entreprise ainsi conçue relève d'un pluralisme partenarial visant à concilier les intérêts des clients, des actionnaires, des salariés et dans une certaine mesure dans l'environnement. Le second modèle, développé principalement en Amérique, relève au contraire d'une sorte de monisme actionnarial. Il considère essentiellement l'entreprise comme une chose, une propriété, un paquet d'actions dont il ne s'agit que de maximiser la valeur conformément à la formule du prix Nobel Milton Friedman. L'unique responsabilité de l'entreprise est d'augmenter ses profits. Michel Albert est évidemment adepte du modèle rhénan, plus soucieux du long terme, moins brutal, moins conflictuel. À la tête des AGF, Michel Albert investit d'ailleurs dans les entreprises allemandes, notamment AMB, comme je l'ai dit. On retrouve là le fil vert de sa passion pour le modèle allemand. Il décrit avec émotion son premier conseil d'administration à AMB après en avoir pris le contrôle. Je le cite. « J'ai découvert le modèle rhénan en 90, le jour où les AGF ont pris 35% de la deuxième compagnie d'assurance allemande, AMB. Je garde physiquement en mémoire mon entrée dans la salle du conseil de surveillance. Il y avait une immense table rectangulaire avec 24 chaises, 12 pour les représentants des actionnaires et 12 pour les représentants des salariés. Parmi ces derniers, il y avait 3 représentants syndicaux permanents spécialisés dans les questions d'assurance. Ils étaient ultra compétents. Je vous jure que pour un Français, c'est très impressionnant. Il ne faut pas oublier que ce n'est que depuis 1945 que le capitalisme rhénan présente les caractéristiques appréciées par Michel Albert. Et ma remarque vaut également pour le Japon. Les institutions en RFA et au Japon ont été mises en place à l'instigation des États-Unis pour éviter la reconstitution des combinats et des aibatsu, considérés comme étant à l'origine de l'impérialisme, non seulement politique, mais aussi économique. Mais depuis 1945, la démocratie semble bien plus tempérée et les consensus beaucoup plus larges que chez nous. Et les performances économiques des deux grands vaincus de la Seconde Guerre mondiale sont pour le moins probantes. Michel Albert lui-même reconnaît que le modèle rhénan n'a cessé de reculer au profit du modèle anglo-saxon depuis 30 ans. Il ajoute que l'on peut même parler de requiem rhénan, en référence au requiem allemand, bien entendu, de Brahms. Dans un entretien donné en 2000, Michel Albert s'exclame « Les industriels allemands sont devenus texans ». On assiste à une sorte, en fait, d'hybridation des modèles. Le modèle rhénan accorde progressivement plus de place aux mécanismes de marché, aux marchés financiers eux-mêmes et aux actionnaires. Le modèle anglo-saxon laisse quant à lui davantage de place à des considérations et principes d'intérêt général. Dans un entretien à l'Expansion, Michel Albert conclut « Dans l'idéal, les deux modèles de capitalisme anglo-saxon et rhénan feront chacun un pas dans la direction de l'autre. Il nous faut plus de souplesse, il leur faut moins d'inégalités. L'hybridation est bel et bien en marche. C'est une quête, jamais achevée, toujours difficile, vers le bien commun, pour reprendre le titre du beau livre de notre confrère Jean Tirole. Le débat actuel sur l'éventuel changement de la raison sociale des entreprises dans notre code civil montre l'actualité des questions posées en 1991 dans Capitalisme contre capitalisme. Mais reconnaissons au capitalisme son extraordinaire capacité à se transformer sans cesse, à s'adapter à chaque fois qu'il paraît menacé, à renaître de ses cendres tel un phénix. Cette faculté de régénération et de transformation permanente est le propre des systèmes décentralisés fondés sur l'initiative et sur la liberté. Michel Albert a toujours une vision positive et responsable du monde. Devant les étudiants de l'ESSEC en 2006, Michel Albert répond à la question « Devons-nous avoir peur de la mondialisation ?» Il regrette que la majorité des Français ait peur de la mondialisation, ce qui est une exception, selon lui, selon les sondages effectués partout dans le monde. On retrouve son positivisme. Je le cite. « Il faut tirer parti de la mondialisation. Nous devons changer. Nous devons nous adapter. Nous devons rassembler davantage, nous autres, nous Français. Et surtout, nous devons rajeunir nos idées. » À aucun moment de sa vie, Michel Albert ne jette le manche après la cognée. Les racines de ce positivisme plongent dans les convictions religieuses de Michel Albert. Il a eu la chance, si je puis dire, expression inappropriée, de succéder au fauteuil d'Henri Guiton. Et Henri Guiton avait une foi extrêmement vibrante. Michel Albert évoque dans l'éloge qu'il prononce le 9 mai 1995 ce fils de l'Église qui était le contraire d'un homme de chapelle, chrétien économiste et non pas économiste chrétien. Son ouverture d'esprit n'a jamais été prise en défaut, non plus que sa franchise. Ce fil blanc de ses convictions religieuses a été en réalité là tout au long de son existence. Il a guidé sa vie depuis sa formation chez les pères. Yvon Bellaval, dans son livre « L'avenir perdu », écrit ce superbe aphorisme « Le croyant sait où il va, il en vient ». Michel Albert a la foi du charbonnier. Son admiration pour Robert Schuman, qui envisagea le sacerdoce avant de devenir homme politique, tient aussi aux valeurs chrétiennes que ce dernier affiche. Parlant de lui, Michel Albert écrit « Toute son action politique se rattache à une véritable philosophie de l'histoire. Pour lui, l'histoire a un sens, qui tend à long terme vers l'égalité et l'unité dans une vision catholique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire universelle. » Michel Albert parle en fait de lui-même en parlant de Robert Schuman et de sa propre vision. Il anime les semaines sociales de France, participe au mouvement du patronat chrétien, comme en peut témoigner notamment Robert Leblanc, qui en a été président. La foi de Michel Albert est indéfectible. Elle lui donne cet optimisme jamais à défaut. Michel Albert était un humaniste, un grand humaniste, un veilleur et un éveilleur, comme l'a si bien dit Michel Cansu. Il y a des hommes sur Terre qui comprennent les nécessités profondes de l'époque dans laquelle ils vivent. Le grand homme n'est pas en avance sur son temps, comme le disait Hegel dans La raison dans l'histoire. Le grand homme est pleinement de son temps. Ce sont ses contemporains qui sont en retard. Et le rôle du grand homme est précisément de faire comprendre à ses contemporains ce qu'exige l'histoire. Michel Albert a eu ce rôle de vigile tout au long de sa vie. La nécessité de l'Europe, le rapprochement franco-allemand, la fin des Trente Glorieuses, l'impératif de la compétitivité, l'adaptation à la globalisation, la confiance dans la jeunesse, la foi dans l'avenir. Mesdames et messieurs, chers confrères, que Michel Albert continue à jamais à nous éveiller, qu'il continue à jamais à nous réveiller, à nous éclairer, car nous sommes tous et toujours en danger de nous assoupir plutôt que d'agir, de nous endormir plutôt que de réagir, d'abandonner plutôt que de continuer, de renoncer plutôt que d'avancer. C'est notre devoir, notre ardente obligation vis-à-vis des générations futures. Je vous remercie.